Les lichens sont partout, sur les murs, les troncs, les piquets, les rochers, les toits et même les sols. Ils sont là l'été, l'hiver, colonisent tous les milieux et recouvrent à eux seuls 6% de la surface de la Terre. Et pourtant, qui peut se vanter de connaître ces petits organismes plus ou moins colorés et capables de vivre à même des supports improbables en toute discrétion? Qui sont les lichens et comment vivent-ils? La question est épineuse. Longtemps, les lichens ont été classés parmi les végétaux. Pourvus de tiges, de feuilles, de racines, on ne savait pas très bien s'ils étaient considérés comme des algues, des plantes ou des mousses. Il faut dire qu'en plus, les lichens produisent des spores, des petites cellules qui servent à la reproduction, comme chez les champignons. Alors où les caser dans la grande classification du vivant? Depuis l'Antiquité, la confusion règne. Théophraste, un naturaliste grec du 3e siècle avant notre ère, est le premier à avoir utilisé le mot lichen, mais il l'employait aussi bien pour désigner des lichens que des mousses. Il faut savoir que ce terme a la même racine que le verbe lécher, pour se coller parfaitement à son support. À la fin du 19e siècle, des chercheurs se sont penchés sérieusement sur la question. Et c'est à un botaniste suisse, Simon Schwendener, que l'on doit d'avoir pour la première fois formulé l'hypothèse d'un organisme complexe, formé et d'un champignon et d'une algue capable de photosynthèse. Mais pas d'une algue marine, une toute petite algue qu'on ne voit pas à l'œil nu et qui volette dans l'air qu'on respire. Cela lui valut d'ailleurs d'être la risée d'un grand nombre de ses collègues. Et pourtant, son hypothèse sera bientôt reprise par d'autres, et la communauté scientifique finira par conclure que des organismes microscopiques peuvent en effet s'unir et en former un nouveau visible à l'œil nu et disposant d'une structure et d'un fonctionnement spécifique, les lichens. Il faut savoir que dans cette union, nul n'est lésé. Le champignon bénéficie des sucres produits par la photosynthèse dont il est incapable. Et l'algue se trouve protégée du soleil et alimentée en eau et en sels minéraux par le champignon. On parle donc de symbiose. Aujourd'hui, on sait que les lichens sont l'association d'un champignon et d'un symbiote doué de photosynthèse. Autrement dit, d'un organisme, pas toujours une algue d'ailleurs, qui sait utiliser l'énergie du soleil et le gaz carbonique pour produire du sucre nécessaire à sa survie et croissance, ainsi que de l'oxygène essentiel à l'écosystème. On dit même que les lichens seraient le fruit d'une symbiose à trois. N'est pas encore né celui ou celle qui pourra clore le sujet. Le caractère inclassable du lichen et la complexité de ses individus lui ont d'ailleurs permis de se faire une place dans les études de genre qui cherchent à sortir de la binarité simpliste homme-femme. Eh oui, les lichens ont horreur des cases préconçues. On parle d'ailleurs souvent improprement du lichen, quand il existe environ 20 000 espèces de lichens dans le monde, dont environ 4 000 en France. On compte une vingtaine d'espèces d'algues et de cyanobactéries, ces petites bactéries appelées communément algues bleues, capables de s'associer à de multiples champignons pour former des lichens extrêmement diversifiés. Pour se frayer un chemin dans ce vaste panel, on peut commencer par distinguer trois grandes formes de lichens. Les crustacés, les plus répandus, qui forment de petites croûtes difficilement détachables de leur support, les foliacés, qui sont faits de petits lobes, et les fruticuleux, qui sont composés de tiges, ne sont attachés que par un point, ressemblent à de petits arbustes et que l'on trouve d'ailleurs principalement sur l'écorce des arbres. Approchez-vous de l'arbre qui se trouve en face de vous et observez l'écorce. Vous voyez les petites rosettes blanches grisâtres avec leurs minuscules petits lobes? C'est Fissia accendens, un lichen foliacé très commun. Mais il n'est pas tout seul. En regardant bien, si possible même à la loupe, vous verrez des formes blanchâtres collées à l'écorce et parsemées de petits points noirs. C'en est un aussi. Idem pour ce beau jaune orangé. Avec un peu de chance, vous pourrez même croiser un fruticuleux, Evernia prunastri, aussi appelé mousse de chêne en parfumerie. Parfaitement, en parfumerie. Notes boisées, odeurs de terre, d'humidité, parfois légèrement fumées, associées au patchouli, elle fait un tabac. Eh bien, cette fragrance provient en réalité de ce lichen et sert aussi à fixer d'autres odeurs plus légères. N'hésitez pas à vous balader et à remonter vers le pont des Catalans. Vous y trouverez, bien accrochés au muret, de très beaux lichens crustacés. La petite croûte jaune que l'on voit sur les pierres et qui affectionne particulièrement ce support s'appelle Caloplaca aurentia. Sur le tronc des arbres le long du canal, vous pourrez observer d'autres lichens, cette fois foliacés, des Fisconia grisea à la forme étoilée. Cette espèce a la particularité de verdir fortement au contact de l'eau. Le problème, c'est que les lichens grandissent très 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 lentement, environ 1 mm par an, ce qui est très très peu. Or, le centre de Toulouse n'est pas un milieu qui leur est favorable. On les gratte, on les carchérise, on les fait disparaître à grands coups de travaux, détruisant murs et trottoirs. Il n'y a guère que sur les troncs et sur les toits, dérobés au regard, qu'ils vivent une vie tranquille. Et encore. Contrairement aux idées reçues, les lichens ne sont pas des parasites. D'accord, ils sont capables de dissoudre un peu de roche pour y puiser des minéraux, mais c'est à une micro-échelle. Et il n'est pas prouvé qu'ils altèrent le bâti. Au contraire, certaines recherches montrent qu'ils constituent une couche protectrice pour les monuments et les statues. Les lichens qui se développent sur les arbres se servent d'ailleurs des écorces comme de simples supports, et non comme ressources. Car oui, à chaque support, chaque substrat, dit-on dans le jargon, son lichen. On peut deviner la nature du substrat en fonction des lichens qui s'y mettent. Cela dit, c'est souvent plus simple de fonctionner à l'inverse, car les lichens sont très difficiles à différencier. Pour certains, le microscope est même de mise. Seuls 30% des lichens crustacés des roches sont reconnaissables à l'œil nu par les lichénologues. Les autres ne se laisseront distinguer qu'en laboratoire. Les lichens poussent dans tous les milieux, ou presque, car en réalité, ils ne vivent pas en haute mer, sur les tissus des animaux vivants, ni en zone très polluée. Et on en trouve même sur d'autres lichens ou sur des mousses. Avec ces dernières, ils sont d'ailleurs les premiers arrivés à la grande fête du vivant. Ils sont ce qu'on appelle des pionniers. Parce que peu exigeants, ne nécessitant que du soleil, de l'eau, de l'air, ils peuvent se fixer et se développer sur les roches et les bâtis. En se décomposant, ils fournissent de l'humus et permettent à d'autres végétaux de s'installer. Il faut savoir que les lichens ont grosso modo deux modes de reproduction. Sexués, via les spores des champignons dispersés dans l'air et qui formeront un nouveau lichen quand une algue adéquate voudra bien s'y glisser, ou par bouture. Les lichens émettent une sorte de poussière ou éjectent des petits bouts de lichen pour reproduire un lichen à l'identique un peu plus loin. On a souvent l'impression qu'ils sont morts, car ils peuvent être très secs et s'effriter facilement. Mais que nenni ! C'est seulement que tout comme l'ours ou la marmotte, ils sont capables de mettre en pause leur organisme en hiver, de se mettre en sommeil. Sauf que ça peut durer longtemps, très longtemps. Au gré des difficultés rencontrées, pollution, conditions climatiques, ils se rabougrissent, s'assèchent, arrêtant ou ralentissant leur métabolisme, puis se réhydratent quand les conditions sont plus favorables. C'est ce qu'on appelle la reviviscence. La pollution ? Parlons-en. Les lichens peuvent accumuler de nombreux polluants, comme des métaux lourds, des radioéléments ou du fluor, qu'ils puisent dans l'atmosphère. Comme ils vivent vieux, parfois plus de 100 ans, ils sont considérés comme de très bons bio-indicateurs pour évaluer les risques environnementaux et sanitaires. C'est Nylander, un grand lichénologue finlandais, de ceux qui s'étaient allègrement moqués de Schwendener, qui, à la fin du 19e siècle, en observant les arbres du jardin du Luxembourg à Paris, a été le premier à émettre l'idée que les lichens étaient sensibles à la pollution atmosphérique. La disparition de certains s'avérait alors liée au développement industriel de l'époque, qui générait, via la combustion de charbon, des émissions de dioxyde de soufre. Après l'effondrement des industries du charbon, ces lichens ont réapparu, mais d'autres polluants persistent, voire surgissent. Alors comment ça marche ? Prenez Xanthoria parietina. Il tolère bien le soufre et adore l'azote, les nitrates en général, qui sont souvent le produit de l'activité humaine. Les gaz des voitures, les engrais, mais aussi les cacas, les cadavres d'animaux et les débris de végétaux. Eh bien, quand le taux de soufre ou d'azote dépasse un certain seuil, il disparaît. Cela nous donne une indication sur la pollution de l'air. Vous vous en doutez, à Toulouse comme dans la plupart des villes, on rencontre surtout des toxitolérants. Des lichens qui résistent à la pollution. En France, il semble qu'on ait jadis utilisé les lichens comme coupe-faim dans des périodes de disette. Ces nids à polluants sont assez peu digestes et parfois toxiques, en plus d'être amers et acides. N'allez pas vous amuser à croquer ceux du muret d'en bas de chez vous. Pour autant, il n'y a pas que des bouquetins, des limaces et des caribous qui mangent les lichens. Dans certains grands restaurants, les chefs en ont même fait un mets de choix. Au Japon, l'Umbilicaria pustulata, aussi appelée bambou des roches ou iwatake, est très prisée. Mais d'autres espèces dans d'autres pays sont aussi cuisinées. Au Canada, on les appelle tripes de roche et on les mange quand on manque de plats plus ragoûtants. En Islande et en Iran, on fait de la farine à partir de certains lichens pour fabriquer pain ou gâteau. Mais il y a encore plus étonnant. Le lichen dénommé Ramalia farinacea, que vous pouvez observer à Toulouse, est particulièrement riche en sucre, ce qui n'a pas échappé à certains Suédois qui, au XIXe siècle, se sont lancés dans la fabrication d'alcool à partir de ces lichens. Hélas, oh combien hélas, la difficulté d'approvisionnement et le faible rendement ont sonné le glas de cette aventure industrielle. Aventure tentée de nouveau pendant la Seconde Guerre mondiale par deux entreprises russes face à la pénurie de sucre, échec cuisant. En revanche, on peut tirer des lichens des colorants que les Romains utilisaient d'ailleurs pour teinter leurs toges. Malgré tous ces usages et les surprenantes qualités des lichens, ils ne jouissent en général que d'une très faible popularité, voire d'un profond désintérêt. Et c'est bien dommage, car qui prend la peine de s'y pencher ne saurait être insensible au charme discret du lichen.